Donc si j'arrive à vous, en fait, à travers le personnage de Jules le Chevalier, c'est à travers un autre franc-comtois qui, à moins de 3 semaines près, serait né aussi en 1808, décidément, c'est l'année 1808, qui a été qualifié d'homme terreur par Jules le Chevalier, qui était aussi quelqu'un qui a joué un grand rôle dans les théories sociales au 19e siècle, qui a lu Saint-Simon, qui a lu Fourier, avant de les rejeter aussi virulemment que Fourier rejetait les Saint-Simoniens et les Saint-Simoniens rejetaient Fourier, vous avez compris qu'il s'agit de Pierre-Joseph Proudhon. J'avais travaillé donc déjà avec Jacques Marseille à Paris, il y a presque 10 ans maintenant, sur la Banque du Peuple, qui s'était mis en place en 1849 à Paris. Et au départ, j'avais l'idée de... J'étais parti pour étudier Proudhon à travers la Banque du Peuple. Et qu'est-ce que j'ai réalisé en étudiant la Banque du Peuple? C'est qu'en fait, Pierre-Joseph Proudhon, entre le projet de crédit gratuit qu'il avait, de structure mutuelle qu'il voulait mettre en place, et la réalité de ce que ça avait été pendant quelques mois sur Paris, cette effervescence, ce début de mise en place de projet de la Banque du Peuple, il y avait un grand décalage. Et en l'occurrence, j'avais réalisé que cette Banque du Peuple qui s'était mise en place, elle avait pour but, dans un contexte de répression des socialistes 40 plus tard, d'unifier ce qui restait des anciens délégués du Luxembourg, c'est-à-dire tout ce qui avait été mis en place sous Louis Blanc en mars 1848 pour réfléchir sur la question du travail, pour organiser le travail. Donc, Louis Blanc était exilé déjà à cette époque, et donc les anciens délégués des corporations ouvrières cherchaient à poursuivre leur œuvre sans leader, si ce n'est des hommes pragmatiques, des hommes moins connus. Il y avait aussi les fourriéristes, à travers la démocratie pacifique de Victor, dirigé par Victor Considérant à l'époque, c'était chef de file des fourriéristes, qui se voyaient dans l'obligation d'unir un peu les forces démocrates socialistes à l'époque. Et la Banque du Peuple a servi pendant le premier trimestre 1849 d'unité entre toutes les théories socialistes de l'époque, de faire un centre qui mette en place pour la première fois en France, à la fois des structures mutualistes, une structure coopérative autour de la Banque du Peuple, et bien sûr toute cette architecture remontée sur un nombre important d'associations ouvrières. Et d'une certaine manière, cette expérience de la Banque du Peuple, en 1849, pour la première fois, elle met en place les bases de l'économie sociale à travers le triptyque association, coopérative et mutuelle. Et qu'il y a derrière toute cette structure de la Banque du Peuple, des personnes dont les noms ne vous diront rien du tout. Peut-être certains, Coignage un vague rôle parmi eux s'il était fourriériste. Mais en tout cas, le principal acteur, c'était Jules le Chevalier. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Jules le Chevalier. Et toujours en travaillant pour plus dans le cadre de la société de Proudhon, je me suis dit quand même, autour de Proudhon, il y avait un certain nombre de personnes intéressantes qu'il faudrait explorer, et beaucoup étaient passés par saint-simonisme ou fourriérisme, et celui qui avait, à mon avis, le plus d'épaisseur et d'envergure, c'était Jules le Chevalier. Alors, Jules le Chevalier, c'est quelqu'un qu'on va voir qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup bougé dans sa vie. Et du coup, la biographie est relativement difficile à faire. C'est plus un travail de biographie intellectuelle que j'ai mené, dans la mesure où le personnage est beaucoup plus connu à travers ses œuvres, sa vie publique, de publiciste, qu'à travers sa vie matérielle, puisque je lui compte au moins une trentaine d'adresses en France, mais aussi à l'étranger. Une grande partie de sa vie à l'outre-mer, pas une si grande partie, mais 10 années d'études de projet en Guyane, un séjour dans les colonies d'outre-mer françaises. Il a fait le tour de toutes les colonies, pas françaises, européennes d'ailleurs, des Antilles. 6 années d'exil en Angleterre, donc vous voyez la difficulté de suivre ce personnage. Alors, je demandais à Olivier Bouzabon, s'il vous plaît, de mettre le projecteur. Jules Le Chevalier, il est né en 1806 à Saint-Pierre de la Martinique, d'un père qui était négociant bordelais et d'une mère qui était créole. Il est descendant d'une génération déjà deux générations de négociants bordelais, puisque son grand-père était déjà armateur bordelais. Et il y a quelques lettres de correspondance commerciale qui permettent de savoir que leurs affaires passaient par Bilbao, la Hollande, l'Angleterre et les Antilles. Donc c'est le grand-père, c'est le plus haut que j'ai pu remonter, Jean le Chevalier, dans les années 1750-1760, était déjà négociant bordelais. Il a eu plusieurs fils, dont le Chevalier qui est né à Bordeaux, négociant, et qui donc a épousé Marianne Lespinas, qui elle était créole, qui habitait la Martinique depuis au moins deux générations. Je ne peux plus remonter au-delà pour en savoir davantage. Ce qui est très certain, c'est que sur la deuxième partie du 19e siècle, du 18e siècle, les affaires de Le Chevalier, de la famille Le Chevalier, ont été très bonnes, puisque il y a un certain Hubert Le Chevalier, qui est un oncle de Jules Le Chevalier, qui était aussi négociant, qui a fait faillite pendant les guerres napoléoniennes, puisque le commerce maritime entre la France, l'Angleterre et les Antilles était évidemment coupé. Et on découvre dans sa faillite que Hubert Le Chevalier, donc un des frères du père de Jules Le Chevalier, était propriétaire de plusieurs domaines dans le Lot-et-Garonne, près de Bordeaux. Et ils avaient une maison, ils avaient une métairie. Il avait pendant un moment donné reconverti ses affaires de navigation marchande en navigation militaire. Ils avaient un peu, spéculé sur les biens de l'Église au moment de la vente des biens de l'Église. Donc globalement, la deuxième partie du XVIIIe siècle a été plutôt très favorable aux affaires. En revanche, la deuxième partie du XIXe siècle a été beaucoup plus catastrophique à partir de la Révolution française jusqu'aux années 1850, puisque il y a plusieurs indicateurs qui permettent de le mesurer. Si on prend par exemple la natalité en 1806, l'année où Jules Le Chevalier est né, on constate qu'il y a plus de mortalité à la Martinique que de naissance, sans doute lié à la guerre, au contexte de Blocus. Théodore Le Chevalier, qui sera cultivateur à la Martinique, qui est le frère aîné de Jules Le Chevalier, parce que je l'ai dans mon tableau. Il se retrouve à un moment donné, à 1830, dans un contexte d'émeutes, d'esclaves, pris à partie. Il est considéré comme un meneur. Il y a une histoire qui est relativement floue. On a beaucoup d'histoires comme ça qu'on a du mal à éclaircir. Mais toujours est-il... les affaires la génération suivante, on ne retrouve plus de propriété de Chevalier à la Martinique, donc on a déduit qu'il se passait quelque chose. Il y a quatre enfants que j'ai pu suivre dans les archives de la Martinique. Les quatre sont morts avant d'arriver à l'âge adulte. Donc ça laisse montrer, ça révèle d'une certaine manière que l'implantation coloniale dès le Chevalier, elle a été très malheureuse. Pourquoi je parle un petit peu de tout ça, c'est parce que Jules Le Chevalier, même s'il quitte très tôt la Martinique, à l'âge de 10 ans il l'a quitté, il va passer 10 ans de sa vie à travailler en Outre-mer, à travailler sur les questions d'esclavage, à travailler sur les questions coloniales. Je pense que tout ce qu'il a vécu dans sa jeunesse, ça l'a forcément marqué. Et ce qui est intéressant, c'est que on conçoit la question coloniale à travers la colonisation donc de l'outre-mer, des Saint-Simoniens essentiellement à travers l'Algérie, l'Égypte d'une certaine manière et autres. Jules Le Chevalier, c'est plus l'outre-mer, essentiellement la Guyane. Mais ce qui est intéressant, c'est que le premier projet de colonie auquel a participé Jules Le Chevalier, ben c'est ici même, c'est la colonie Le Palanster, qui a été intitulée de Alors on arrive à on va retourner en métropole. À l'âge de 10 ans, Jules Le Chevalier entre au collège de Pont-le-Voix, c'est un des derniers collèges royaux en France. Il y fait une scolarité très brillante. Chaque année, il a les plus d'excellence, il a les meilleures notes, les meilleurs résultats. Il y apprend, il y reçoit des cours d'anglais. Sans doute, mais pas la preuve, des cours d'allemand, puisqu'il ira étudier en Allemagne. Et donc, quand il quitte en 1821 le collège de Pont-le-Voix, avec tous les produits accessibles et autres, il s'engage dans une carrière juridique, sans doute celle qui lui était promise par ses parents. Il passe sans doute 3 ans à faire sa licence de droit, ce qui lui offre à l'époque le titre d'avocat. Et il se revendiquera très rarement dans sa vie d'avocat. Il y a peut-être une lettre ou deux où il signe en tant que Jules Le Chevalier avocat. Très rapidement, en fait, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le droit, mais c'est la philosophie. Alors, avant d'étudier la philosophie, il la considère comme une chose de très globale à l'époque. Il fréquente les bancs d'école de médecine, il fréquente les bancs de l'école de lettres. Il suit beaucoup de cours d'économie, il se développe une très grande culture encyclopédique. Et c'est notamment, il pense que c'est à travers la philosophie, qu'il pense un peu comme la science des sciences à l'époque, qu'on peut se faire une idée, une connaissance globale du monde. Et là, il rentre dans une espèce d'errance intellectuelle qui fait que, à travers ce qu'il entend, ce qu'il côtoie, il doit, dès 1825, on ne sait pas trop, avoir connaissance du producteur, le premier journal ou les premiers disciples de Saint-Simon, qui dit les premiers disciples de Saint-Simon, il doit avoir connaissance un petit peu de ses œuvres, et il les lit, mais sans en restant très, très distant du mouvement. Il suit les cours de Victor Cousin à la Sorbonne, et c'est par le biais de Victor Cousin qu'il entend parler de Friedrich Hegel, et c'est vraiment la philosophie hegelienne qui l'intéresse. Il avait déjà lu Rousseau, il lit Kant, il lit les signes, et il se met en tête clairement d'étudier la dialectique et la philosophie de l'histoire, car il est persuadé, il n'est pas le seul à cette époque au début du 19e siècle, qu'on peut découvrir une loi de l'histoire, qu'on peut expliquer l'humanité d'une certaine manière, après les périodes de révolution que l'Europe a connues, on doit pouvoir mettre un nouvel ordre social, et c'est en quête de ce nouvel ordre social qu'il se met. Il rencontre donc Hegel en 1829, il assiste à ses cours, il suit les cours de d'autres universitaires allemands, et quand il revient à Paris, où il vit avec sa belle-sœur, la femme de son père Théodore Le Chevalier, où un jour d'ailleurs, l'enfantin qui n'est pas encore nommé le père, un jour le retrouve en chemise, légèrement dévêtue dans la même chambre que sa belle-sœur, ça fera beaucoup jaser les Saint-Simoniens sur les relations particulières de Jules Le Chevalier avec les femmes. La question des femmes n'avait pas une importance que pour les fourriéristes et les chartreuristes. Chez les Saint-Simoniens, elle est très importante, et Jules Le Chevalier notamment a joué un rôle dans les questions du rôle de la femme chez les Saint-Simoniens. Donc il erre en fait Jules Le Chevalier à Paris dans cette fin d'année 1829, et Charles Duverrier et un autre proche, Delrien ou un autre, on ne sait pas précisément, cherchent en tout cas à rapprocher Jules Le Chevalier à lui. C'est l'époque où, 24 décembre 1829, où Enfantin et Bazar se proclament père de la doctrine et commence à faire basculer le saint-simonisme dans une forme de religion. Jules Le Chevalier, à la fois, il a du mal avec ça, et en même temps, il est attiré par cette idée d'un nouvel ordre social, d'un nouveau christianisme, de quelque chose de nouveau, et il finit par adhérer. Au début de l'année 1830, il déclare sa profession de foi, il est à Charles Duverrier, parce que c'est pas son idée qui rentre,
Et il s'engage donc à se consacrer à l'apostolat saint-simonien, selon ces termes, à professer les théories saint-simoniennes. Il se méfie du langage religieux, ça les saint-simoniens, dans cette époque-là, lui reprochent souvent. Et ce qui l'intéresse, c'est l'idée de trouver une doctrine qui promet à tous le salut de l'humanité. Jules Le Chevalier, pendant les deux années suivantes, 1830-1831, va devenir un des plus actifs propagateurs saint-simoniens. Au point même que ses qualités orales le font indubitablement remarquer par tous les auditoires, au point que, par exemple, le frère de Lacordaire, quand il le voit Jules Le Chevalier arriver à Dijon pour confesser la parole saint-simonienne, le compare à Saint Bernard qui appellera à des nouvelles croisades. Régulièrement, à Paris, à rue Monsigny, là où il y avait aussi les bureaux du Globe, on reçoit, il y a encore à l'Arsenal, des lettres de gens qui écrivent pour dire « Voilà, j'avais vaguement entendu parler de Saint-Simon, des Saint-Simoniens. Pour le moment, ça ne me disait rien. Jusqu'au jour où Jules Le Chevalier est venu tenir un enseignement dans notre ville. » Et depuis qu'il est venu dans notre ville, j'ai vraiment découvert tout ce que ça pouvait avoir de profond et d'ardent et de réel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans Jules Le Chevalier, pendant toute la période saint-simonienne, il n'écrit pas à son nom propre. Il fait une vingtaine d'articles dans l'Organisateur, puis après le Globe. Il publie petites brochures qui s'appellent Mission Saint-Simonienne, où il explique pourquoi nous venons, quel est le message que nous devons passer. Donc, c'est le message saint-simonien du constat d'un ordre ancien qui a disparu, d'un ordre nouveau à bâtir, d'une nouvelle société par l'association universelle des hommes à bâtir, le rôle des industriels, le rôle des ouvriers et des travailleurs là-dedans, la nécessité d'améliorer les conditions de vie, mais aussi la nécessité de créer une nouvelle religion, ce avec quoi Jules Le Chevalier a toujours du mal, au point que le père Enfantin, Charles Duverrier, Ferrer, lui reprochent constamment d'être un métaphysicien, mais c'est pas ce qu'une insulte en fait pour quand il lui dit ça, c'est « tu es un métaphysicien dans le sens tu raisonnes trop, tu ne parles pas assez avec le cœur, tu n'es pas assez sensible, l'homme nouveau, l'homme que les saint-simoniens attendent, doit être quelqu'un qui doit avoir plus d'instinct, plus de sentiments, et dégager, c'est bien, tu dégages du charisme, puisque tu nous amènes des adhérents par tes discours, mais tu dois être un prêtre. Ils veulent en faire un prêtre, et ils en font même un prêtre, puisque Jules Le Chevalier, au début de l'année 1831, officie un jour l'enterrement de Caroline, vous voyez, Caroline Bazin, non, c'est pas la fille Bazin, en tout cas, il y a un décès chez un membre de la famille saint-simonienne. Ils vivent en huis clos à cette époque-là, rue Monsigny, ils sont dans un hôtel particulier où il y a une trentaine d'habitants, dont Jules Le Chevalier. Jules Le Chevalier, en tout cas, tient une messe vraiment pour l'enterrement d'une fille de 2 ans, d'un couple de membres de l'église saint-simonienne, et il professe au nom du Père et de Saint-Simon. Devant la famille d'ailleurs de la personne mourante, parmi lesquelles il y a des saint-simoniens, mais la majorité qui n'est pas saint-simonienne. Le sec est très intéressant, ce paradoxe qu'il y a en permanence chez Jules Le Chevalier, métaphysicien, à qui les pères Bazar et surtout Enfantin reprochent son rationalisme, et qui en même temps lui confie un rôle clérical, un rôle religieux au sein de l'église saint-simonienne. Voilà, Caroline Simon, c'est la femme. Il y avait donc le couple Simon, merci. Le couple Simon qui était saint-simonien, qui était rentré justement, qui avait adhéré au saint-simonisme à la suite de prêtres des prêtres de Jules Le Chevalier et qui a enterré, inhumé leur fille, sous une messe de Jules Le Chevalier. quelques remarques donc, sur les pages de Jules Le Chevalier. Ils étaient des fois devant des salles de 400, 600, jusqu'à 1000, 1500 même une fois, personnes qui assistent dans des amphithéâtres, dans des salles à ces conférences. Il y en a eu à Rouen, il y en a eu à Dieppe, au Havre, à Toulouse, à Dijon, à Besançon, à Mulhouse, à Metz, tout ça de la fin de l'année 1830 jusqu'à l'année 1831. Ce qui intéresse Jules Le Chevalier quand même, c'est que d'un côté, il prétend au nom de Saint-Simonie s'intéresser aux travailleurs, aux ouvriers, mais il fait très attention chaque fois qu'il se rend dans une ville d'attirer à lui les notables. C'est une obsession presque pratiquement. Nous avons encore eu beaucoup de notables. Les journalistes, il tient à chaque fois, particulièrement dans chaque place où il passe, à attirer à lui au moins un rédacteur d'un journal local pour avoir une sorte de tribune sur place. C'est presque une véritable infiltration, j'ai envie de dire, des réseaux locaux à l'époque par les Saint-Simoniens et par la stratégie du Jules Le Chevalier. La volonté donc toujours de rencontrer des gens du pouvoir, des préfets, de rencontrer différents notables, et la volonté aussi d'organiser des réunions auprès des femmes. Toujours donc déjà chez Jules Le Chevalier, bien avant que Enfantin mette en place à la fin de l'année 1831 la nouvelle théorie de l'union de l'homme et la femme, il était déjà très soucieux d'attirer les femmes à la doctrine, et d'ailleurs au point que lors de certaines réunions, il rencontre, il voulait presque rencontrer sa sympathie conjugale, quelqu'un qui devait séduire énormément à l'oral, et pas que les hommes d'ailleurs, aussi les femmes. Alors pourquoi, après une telle embellie chez les Saint-Simoniens, Jules Le Chevalier n'est-il pas resté Saint-Simonien? Il y a plusieurs choses qu'il explique. Alors comme vous savez, il y a eu un ouvrage qui a été fait en 1913 par Henri Louvencourt, intitulé « Sur les socialismes romantiques », qui raconte le passage du Saint-Simonisme au fourierisme. Et il fait évidemment ressortir le rôle de Jules Le Chevalier là-dedans. Et d'ailleurs, dans cet ouvrage, Jules Le Chevalier passe un peu comme quelqu'un de finalement pas très motivé par le Saint-Simonisme, et qui finalement se laisse assez facilement absorber par les fourieristes et passe relativement facilement du Saint-Simonisme au fourierisme. C'est en réalité bien plus complexe que ça, dans la mesure où en 1831, Jules Le Chevalier est encore capable de faire des réunions à la Sorbonne ou en province devant donc des auditoires parfois tumultueux, où des fois les théories saint-simoniennes de l'époque provoquent, elles suscitent du tumulte. Il y a des fois des gens de la réaction qui viennent parce que bah, évidemment l'idée d'introduire un nouveau culte qui semble une parodie du catholicisme provoque. Mais aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est que Jules Le Chevalier s'entend beaucoup libéraux. Il constate que les libéraux de l'époque sont souvent parmi leurs principaux opposants. Et d'ailleurs, Jules Le Chevalier, pendant très longtemps, est hostile aux républicains et pratiquement pendant toute sa vie aux théories libérales. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il tire des théories de Saint-Simon puis après de Fourier, c'est que l'ancien régime, l'ancien ordre est dépassé, c'est une bonne chose, mais néanmoins le régime actuel qui se met en place, l'ordre actuel, la société nouvelle, n'est pas l'harmonie, mais chez les fourieristes, c'est comment avant l'harmonie, il caractérise la société dans laquelle il vit, qui est celle de l'hypocrisie, de la fonderie, de tous les vices. L'ère de civilisation dans laquelle il vit est celle de l'échange faussier, de l'échange marchand, de l'échange usurier, de tous les vices. Et donc c'est pour ça que Jules Le Chevalier, la théorie du laisser-faire, laisser-passer, il s'insurge en permanence toute sa vie à l'enfant. En 1831, les pères Bazard et Enfantin se séparent à la suite de querelles dont à mon avis on est encore loin. Je ne sais pas si un jour on saura vraiment tous les contenus et tous les enjeux de ce qu'il y avait dans cette division, mais Jules Le Chevalier était très attaché aux deux, à la diarchie Enfantin Bazard, et le fait que les deux se séparent, qu'Enfantin fonde une nouvelle église d'une certaine manière, mette en place une nouvelle morale, Jules Le Chevalier n'y accepte pas. qu'est-ce qui l'inquiète dans la morale enfantillienne, c'est l'appel à la femme, qui dans des manières très à la fois très prophétique et très sibylline en même temps. Tous les sous-entendus qu'il peut y avoir derrière cette morale, l'idée que quand Enfantin révèle que à côté du père il doit y avoir une mère et que le père et la mère doivent pouvoir donner réciproquement l'amour à leur fils, il y a un certain nombre de conclusions qui se créent derrière. Mais plus globalement, c'est l'idée chez Enfantin que il faut mettre à plat tout ce qu'on a fait et attendre un stade nouveau pour repartir dans la doctrine qui déplaît à Julie Le Chevalier, ce qui dit, ça voudrait dire que tout ce qu'on a prêché jusqu'à présent, concrètement, ce serait du vent. Le père Enfantin est en train de se mettre à la place de jouer le rôle d'un nouveau père, et finalement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de parodier l'Église catholique, de remettre en place une hiérarchie catholique. Si c'est pour avancer sur ces corps anciens, autant garder la religion catholique d'à côté et essayer d'avancer vers les autres. Et dans cette période-là, Jules Le Chevalier, il est plus qu'ébranlé. Il a, dans les lettres, d'après ce qu'il décrit, il en pleure, avec Abel Françon, un autre qui était très proche avec lui dans le Saint-Simonisme, qui va passer après dans le fourriérisme. Il raconte les soirées ensemble où ils sont dans une grosse dépression tous les deux d'une certaine manière, parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Et heureusement pour Jules Le Chevalier, au cours de l'année 1831, plusieurs des premiers proches de Charles Fourier étaient venus le rencontrer. Donc, parmi eux, il y avait eu Gabet, il y avait eu Juste Murion, il y avait eu Clarisse Groux et Victor Considérant, qui, à plusieurs reprises, viennent apporter, discuter avec Jules Le Chevalier des œuvres de Charles Fourier. Alors la première fois, Jules Le Chevalier, il tombe sur quelques pages de la théorie des quatre mouvements, et le style austère, tout de suite, la difficulté, surtout que lui, c'est un rationaliste, il ne jure que par la philosophie à l'époque, il le rejette. Il en parle au père Bazard et Enfantin, qui lui disent, non, Charles Fourier, on a déjà lu, c'est un rigolo, mais j'exagère un peu. Mais ce n'est pas la peine d'aller se jeter là-dedans, même si dès qu'il prévient l'état de la civilisation, il n'y a rien de nouveau. Mais petit à petit, à force de se plonger dedans, d'être incité à le faire, il s'y intéresse. Et qu'est-ce qui intéresse essentiellement Jules Le Chevalier dans Charles Fourier? C'est que y a enfin le plan de ce que les Saint-Simoniens promettent depuis 2 ans mais ne mettent pas en place, à savoir une association. Que promettent les Saint-Simoniens? C'est qu'ils vont associer une association universelle des hommes et des travailleurs, et jusqu'à présent, il la fâche, mais il n'y a aucun plan pratique qui se met en place. Là, que propose Charles Fourier à travers le phalanstère? C'est des idées concrètes pour mettre en place une association des hommes, pour assurer les progrès sociaux, pour assurer l'amélioration des conditions de travail et de vie. Et dans un premier temps, l'idée de Jules Le Chevalier, c'est même d'intégrer Charles Fourier à la doctrine saint-simonienne. C'est-à-dire qu'on garde la théorie saint-simonienne de l'évolution historique et de la hiérarchie sociale, et puisqu'on promeut l'association, c'est l'association fourieriste qui se met en place. Très rapidement, comme l'église saint-simonienne est en train de s'effondrer, Jules Le Chevalier bascule au cours de l'hiver 1831-1832 du côté de Charles Fourier, que là, il va rencontrer à Paris, rue Joclet, et très rapidement, ils se mettent en place des projets, celui du phalanstère. Je demandais de passer d'abord à cette fameuse lettre sur la division. Elle est très intéressante, pourquoi? Parce que l'opuscule est de 1831, la préface est du 24 décembre 1831, c'est-à-dire le deuxième anniversaire du de la diarchie, Bazard-Enfantin, et... pour les 2 ans de l'anniversaire Bazard et Enfantin, Jules Le Chevalier écrit une lettre sur la division survenue dans l'association saint-simonienne. Pourquoi c'est important ce texte? C'est parce que les saint-simoniens sont considérés comme une église. Et lui, qu'est-ce qu'il en fait on voit toute la logique de la lettre. Il ramène le saint-simonisme à la place que pour lui il gardera dans l'histoire, celui d'une doctrine d'association. D'état, on dirait une doctrine de théorie sociale et d'économie sociale, mais il y a cette volonté de dire, on garde du saint-simonisme l'idée qu'il faut associer les hommes, l'idée qu'il faut arriver à une harmonie, à des progrès sociaux, l'idée de rapport entre les travailleurs et les capitalistes qui peuvent être améliorés, mais c'est Charles Fourier, c'est comme ça qu'il conclut cette lettre sur la division, qui est adressée au départ au docteur Curie, et qui après va être adressée à tous les saint-simoniens que Jules Le Chevalier a croisés, bah, l'idée de se dire que l'association, on va la faire avec Charles Fourier. Alors très rapidement, Jules Le Chevalier et Charles Fourier se semblent bien s'entendre. Ce qui est pratique, c'est que Jules Le Chevalier a tiré de son expérience saint-simonienne la capacité à écrire dans un journal. Jules Le Chevalier a été, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est important, il a racheté l'organisateur. C'est lui qui a versé la caution. Alors c'est un mystère, je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé les 5000 francs nécessaires à l'époque pour en devenir propriétaire, bah, sans doute de sa main familiale. Et c'est lui aussi, vous savez que rue Monsigny, là où vivait la première communauté saint-simonienne, c'était pas encore l'esprit communautaire de Ménilmontant, c'était dans le même immeuble que là où il y avait les bureaux du Globe, où notamment travaillait Pierre Leroux. Et c'est Jules Le Chevalier, au cours des Trois Glorieuses lors de la Révolution de 1830, qui va nouer énormément de contacts avec le Globe et qui va faire passer les globistes, comme ils ont été appelés depuis, du côté saint-simonien, et qui va faire que le Globe devienne un journal saint-simonien. Vous voyez, il avait une certaine expérience de la presse, et c'est justement ce qui va servir à Charles Fourier. Janvier 1832, donc on est à peine quelques semaines après la lettre sur la division de l'église saint-simonienne, Jules Le Chevalier, Charles Fourier, savent déjà qu'ils peuvent compter sur quelques actionnaires pour lancer une publication. Alors, sur quoi se base cette publication? Bah, au cours du premier semestre 1832, lorsque l'épidémie de choléra cesse, Jules Le Chevalier fait des conférences pour expliquer la pensée de Charles Fourier, en priorité aux saint-simoniens. C'est-à-dire qu'il est en face de ses anciens frères saint-simoniens, il en a contacté un grand nombre, pendant les deux ans il a été propagateur, et il leur explique la pensée de Charles Fourier. Évidemment, des fois, il y a des réactions, des heurts un petit peu, comment tu peux passer de Charles Fourier d'un coup, alors que tu étais proche de nous auparavant. Mais globalement, qu'est-ce qu'on constate? Bah, c'est que la majorité des saint-simoniens passent plutôt dans le camp fourieriste, les frontières ne sont pas s'ils dépassent. En fait, ce qui est intéressant de voir à travers Jules Le Chevalier, c'est que, bah, à travers deux écoles dont les chefs se faisaient d'une certaine manière la guerre, les hommes sont beaucoup plus pragmatiques et assistent aussi bien aux conférences saint-simoniennes qu'aux conférences fourieristes. Et ces premières conférences de Jules Le Chevalier sur Charles Fourier sont sténographiées. Et c'est ce qui devait servir de base au départ à faire le premier journal sur la réforme industrielle ou sur le phalanstère. Finalement, ce sera juste des cours qui auront été publiés. Mais en même temps, durant cette période, on cherche des actionnaires. Et grâce à Jules Le Chevalier et à quelques relations commerciales qu'il avait, le journal de la réforme industrielle qui avait pour but, comme on l'a dit tout à l'heure, de mettre en place le phalanstère est mis en place. S'il te plaît, on reviendra tout à l'heure là-dessus, c'est intéressant. Voilà donc le prospectus de la réforme industrielle. Là, en fait, c'est la table des sommaires qui a été faite à la suite de l'année 1832, après la première année. Et ça met bien en fait en place vous voyez, c'est très austère, finalement, c'est derrière le côté fourriériste du phalanstère, de l'attractivité, des passions, etc. Ça reste vraiment un tract commercial, hein, l'idée de fonder une société par commandite, avec tant de parts et tout ça, et des associés, grâce à Baudet Dulary, sur le terrain de député de Seine-et-Oise et de Devey, sur un terrain de 500 hectares, montre vraiment un descriptif très technique. Et puis on peut mesurer la place en fait des fondateurs spirituels du journal à travers en fait la table des matières de la première année,
parce que vous avez Charles Fourier ici, Monet Dulary qui a fait quelques articles, Victor Considérant, Jules Le Chevalier, donc vous voyez, c'est vraiment un des gros piliers de la théorie avec Victor Considérant et Charles Fourier, et Abel Françon, polytechnicien, saint-simonien, passé au fourierisme par le biais de Jules Le Chevalier, avec lequel il était très proche. Donc ça tranche un peu, je veux dire, il y a la réforme industrielle qui est le journal très austère, et puis si tu passes à la suivante, le phalanstère, qui finalement est le même projet, à la fois un journal dans le but de mettre en place une colonie, une exploitation. Là, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus fourriériste. Une phalange agricole et manufacturière, avec découverte du procédé de l'industrie sociétaire, avec l'opposition des deux époques, l'époque de l'industrie ancienne, où le travail est contraignant, etc., et puis l'époque moderne, où le travail se fera par le plaisir, par des petites séquences, et ainsi de suite. Et alors, les résultats, bah, c'est que on va avoir de la liberté à manger, de l'amour, alors que dans l'ancienne société, c'était la guerre, l'oppression, la fourberie, Alors, quel est le rôle de Jules Le Chevalier dans le fourriérisme? Il y reste 2 années, 1833 à 1834, et là, les colons vont avoir une déception. Je ne suis même pas sûr que Jules Le Chevalier se soit rendu une seule fois ici. Pour la simple, je ne suis même pas sûr. Il y a, parce que le rôle.
Il y a travaillé, je suis vraiment avide de la pente,
parce que n'ayant aucun document qui me permettait de l'attester, je ne pouvais pas le dire, et surtout, Jules Le Chevalier, contrairement à cette position, il se place comme le théoricien du fourriérisme, et le responsable de la société de propagation du phalanstère. C'est-à-dire qu'il y a le journal, le phalanstère, qui doit amener des adhérents, des souscripteurs et des volontaires. Et puis, il y a le phalanstère sur place. Et lui, qu'est-ce qu'il dit de la colonie? Ben, il dit, parmi les fourriéristes, on a un certain nombre de gens comme Considérant, comme Abel Françon, comme Tamisier et d'autres, qui sont des ingénieurs d'artillerie ou des militaires. Et ces gens-là, c'est des gens pratiques, c'est des gens qui sont habitués à aller sur le terrain, et c'est très bien que ce soit eux qui s'en occupent. Tout entendu, moi, je suis un intellectuel, un théoricien, je n'ai rien à faire sur place, et il reste en liaison avec la colonie, il a des nouvelles, concrètement, c'est pas ce qui l'a préoccupé, en tout cas dans les années 1832, 1833. Il parle très peu du sort de fondé sur maigre, si ce n'est que ça serait bien que ça réussisse, parce que ça prouverait que la théorie de Champollier est juste et vrai, qu'il trouve du bon boulot, mais ce n'est pas sa théorie. Un petit portrait quand même de Jules Le Chevalier, c'est pour revenir précédemment, j'en parle et j'ai fait peu de choses sur elle. Voilà la meilleure esquive de Jules Le Chevalier qu'on peut avoir. Alors, d'après le succès auprès des femmes, dont je vous avais parlé, on aurait pu s'attendre à avoir un grand jeune homme très prestigieux. En fait, non, c'est pour reprendre les termes de Dufour, d'ailleurs, je crois, c'était un petit gros. Pour reprendre les termes. Charles Pellerin était plus sympathique. Il évoquait sa bonhomie sympathique, sa bonhomie conviviale. C'était un petit gros, et vous voyez, au centre, vous avez le père enfantin qui, lui, avait beaucoup plus de prestance. Ça, on le sait bien. Le père, qui était dans son beau costume. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette esquive, cette scène se passe le jour de l'enterrement de Bazard. Vous savez que Bazard est décédé en 1832. D'après sa femme, Claire Bazard, il serait mort de la congestion cérébrale qu'il aurait eu à la suite des entretiens très houleux durant l'été 1831 entre Enfantin et lui. Sur la question de la femme, cette question de la femme aurait été introduite inconsciemment, involontairement par Jules Le Chevalier, qui voulait épouser une jeune actrice qui s'appelait Léontine Fay, qui avait beaucoup de succès à l'époque. Et Claire Bazard, la femme de Bazard, estimait que ce projet de mariage n'était pas sérieux car un membre de l'église saint-simonienne ne pouvait pas faire un mariage avec une femme d'une aussi basse condition, une comédienne, une vulgaire comédienne, ce n'était pas du tout religieux.
Et donc, c'est comme ça que serait apparue la querelle sur la femme et la position de la femme que doit jouer dans l'Église et dans la société la femme d'après les Saint-Simoniens. Et quoi qu'il en soit, il y a eu séparation entre Bazar et Pantin. Bazar est décédé en 1832. À l'époque, les Saint-Simoniens, qui sont regroupés dans leur beau costume de l'époque, en marche, alors ils ne voient pas très bien, se rendaient en marche depuis Ménilmontant pour aller à Courtry, dans l'actuel Seine-Saint-Denis, derrière Montfermeil, là où a donc été enterré Bazar. Et ils se sont donc rendus en marche à l'enterrement alors qu'ils n'y étaient pas invités et que Claire Bazar, la veuve, ne voulait surtout pas voir Enfantin et les Saint-Simoniens se rendre à l'enterrement puisqu'ils les accusaient d'avoir causé la mort de son mari. Et c'est Jules Le Chevalier qui lui est invité au mariage qui a été chargé de se rendre à l'encontre des Saint-Simoniens qui étaient en marche pour leur dire de ne pas se rendre aux obsèques et que cela aurait été très mal vu. Ce qui est intéressant donc, c'est que cette esquisse elle est de Machereau. Il y a une toile qui en a été faite par une toile qui a été faite pour Gustave Deschtal et Deschtal a perdu cette toile lors d'un voyage en Grèce et c'est pour ça qu'il ne reste plus que ça. Le seul petit bout de parfait de Jules Le Chevalier
sur lequel... C'est qu'en bas et à droite, de l'écriture de Gustave Deschtal, est-ce qu'il se fait à ma demande?
Est-ce qu'il se fait à ma demande, Gustave Deschtal?
D'ailleurs, c'est dans le fond Deschtal. Cette esquisse, c'est dans le fond Deschtal.
Alors, les Saint-Simoniens étaient dans les symboles. Là encore, on arrive à des limites, des choses. Jules Le Chevalier, donc, vous voyez avec son chapeau haute forme, sur son petit cheval, et qui donc a un bon point. Portait ce jour-là, c'est Gustave Deschtal qui le dit, il portait un gilet vert. Il était à un enterrement avec un gilet vert, et Deschtal leur ajoute signe d'espérance. Il faut croire que l'enterrement de Bazar, qui connaît pas les Saint-Simoniens, était en tout cas le sporteur vert. Et Enfantin, qui donc a été très vexé, qui avait demandé à Jules Le Chevalier d'être respectueux vers son ancien père, Jules Le Chevalier lui a répondu, il n'y a plus de lien de paternité entre nous, entre toi et moi, il n'y a plus que des rapports de simples citoyens, ça a été beaucoup choqué. Le lendemain, Enfantin a fait remarquer quand même dans une lettre que tu remarqueras que notre entretien a eu lieu à proximité d'une croix, la seule que nous ayons rencontrée nous sur notre trajet. On la voit pas sur les skis, mais vous voyez, il y avait toujours cette volonté de chercher des symboles. Il faut savoir que parmi les Saint-Simoniens qui sont en marche derrière Enfantin, il y a le docteur Charles Pellerin, qui lui racontera dans ses mémoires que cet entretien a fini auprès de lui de décrédibiliser Enfantin à ses yeux. Et 11 jours plus tard, Charles Pellerin venait frapper au bureau du Palancer pour rejoindre Jules Le Chevalier, Victor Considérant et Charles Prolet. Donc autant dire que dans les années 1833, à l'époque où les Saint-Simoniens sont en prison pour leur procès de moralité, à cette époque-là, Jules Le Chevalier, il est, on va dire, un des rédacteurs principaux du Palancer, mais certes pas un grand journal de tirage national, mais qui suscite régulièrement la polémique dans le petit feuille local de province. Ce qui est intéressant, c'est que Jules Le Chevalier, lui, ce qu'il va faire de Charles Fouillet, très vite, il le dit, il rejette tout ce qu'il y a d'utopie. Tout ça, je vous ai dit, c'est beaucoup plus sociétaire. Ce qu'il a fait chez Charles Fouillet, c'est la théorie d'association, et notamment l'idée de pouvoir unir à travers le phalanstère les travailleurs, les capitalistes et les talents. Vous savez que déjà chez les Saint-Simoniens, il y avait l'idée de promouvoir les travailleurs, les industriels et les talents, les artistes. Il voit dans le phalanstère la possibilité de le faire. Et il va s'intéresser à deux choses, en fait, pendant toutes les années où il est au phalanstère. C'est, un, à prouver que Charles Fourier, enfin, l'école de Charles Fourier fonde une école au sens scientifique. Et, deuxièmement, qu'elle est à l'origine de ce qu'il appelle, ce que les fourieristes appellent l'économie sociétaire. D'où la raison pour laquelle j'ai fait par la suite de Jules Le Chevalier un des pionniers de l'économie sociale, c'est qu'en fait finalement qu'est-ce qui l'a intéressé à travers l'expérience fourriériste et à travers l'expérience saint-simonienne, c'est comment c'est des moyens, la science qui va mettre en place la recherche des moyens de, d'unir les capitalistes et les travailleurs dans le but d'améliorer la production et surtout les rapports sociaux. C'est, voilà, vous voyez, la volonté, c'est intéressant. C'est finalement le premier ouvrage de Jules Le Chevalier, scientifique. Il intitule « Études sur la science sociale, théorie de Charles Fourier ». Qu'est-ce qu'il fait de Charles Fourier, finalement? Bah, il en fait un sociologue au sens plus vaste, puisqu'il s'intéresse quand même énormément encore à la philosophie, dans témoigne ne serait-ce que la citation d'Emmanuel Kant. Jules Le Chevalier, en 1833, tout en étant fourieriste, et tout en tissant des liens pour essayer de trouver des actionnaires pour la colonie, mais pour d'autres projets. À un moment donné, il se fait offrir des terres pour un autre projet de palancelle qui ne verra pas le jour, et ça aurait pas été mieux de toute façon qu'il signe une loi d'agriculture, puisque c'était dans les Landes. Donc vous voyez, il y a une fatalité chez les fourieristes à se faire donner des terres les moins fertiles. En 1833, donc Jules Le Chevalier, qui fait partie de plusieurs académies, qui sont régulièrement à des colloques, candidate, il a à l'époque 25 ans, à la chaire d'économie politique du Collège de France, qui vient d'être laissée vacante par Jean-Baptiste C. Et il y propose un vaste programme qui témoigne de cette connaissance solide en sciences sociales, et il y propose, entre autres, d'étudier au Collège de France les théories de Saint-Simon et les théories de Charles Fourier. Évidemment, il échoue devant Rossi à la chaire, qui était très âgé, qui était déjà secrétaire de l'Académie des sciences morales et politiques. Ça n'empêche pas Jules Le Chevalier de faire les cours qu'il avait prévu de faire à l'école de France, au Collège de France sur Paris. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, en 1840, Michel Chevalier arrivera, lui, à avoir cette chaire. Finalement, ce n'est jamais que 7 ans après. En 1833, on jugeait, Charles Pellerin jugeait que c'était beaucoup trop tôt pour présenter Saint-Simon au Fourier au Collège de France, et que c'était évident qu'il se soit fait débuter. Et 1840, finalement, Michel Chevalier arrive. Et puis, au début du XXe siècle, Charles Gide présente des cours entiers sur la pensée de Charles Fourier. Alors, j'ai insisté assez longuement sur le saint-simonisme et le fourierisme, puisque c'est essentiellement ce qui vous intéresse. Je vais aller plus brièvement sur le reste de sa vie. Il n'y a pas de séparation avec Charles Fourier, il reste proche, mais très rapidement, Jules Le Chevalier s'intéresse à d'autres choses. Il s'intéresse à l'instruction, notamment au moment où Guizot, en 1833, arrive ministre de l'instruction publique, et il est très proche de lui, et encouragé par Guizot, mais aussi d'ailleurs Victor Hugo, Lamartine, et d'autres, il crée une revue du progrès social, qu'il publie toute l'année 1834, avec d'anciens saint-simoniens, d'anciens fourriéristes, et d'autres connaissances d'ailleurs. Puis, très rapidement, il se rapproche de la monarchie de Juillet, qu'il considère, alors ça peut être très surprenant parce que il y a des passages de 1831 où il explique qu'on est dans une situation où les peuples sont en guerre, où on va vers une lutte des classes, et il utilise le terme en 1831 de lutte entre la bourgeoisie et le prolétariat. En 1837, il écrit un opuscule, qui sont des extraits de journaux, d'un journal qu'il dirigeait d'ailleurs, le journal de Paris. Et il explique clairement que la monarchie de Juillet est l'avenir de la France, parce que c'est le seul gouvernement qui va permettre l'essor de la bourgeoisie. Et qu'est-ce qu'il souhaite en fait finalement pour le peuple français? C'est que tout le monde puisse devenir un petit bourgeois, un propriétaire, ce qui finalement est très logique dans une société majoritairement agricole à l'époque, où la majorité des ouvriers sont des artisans. Il faut une terre à cultiver, il faut un outil, il faut un capital minimum pour pouvoir produire, et c'est essentiellement cela qui l'intéresse. Dans les années suivantes, en 1837, il fait faillite avec son journal de Paris, et sans doute pour éponger ses dettes, par le biais peut-être du ministre Mollet, ou encore de Guizot, ou d'un autre, il avait des relations assez bien placées, on va dire, dans les ministères, il se fait financer un voyage d'un an pour étudier les colonies française et européenne des Antilles, où il va étudier sur la question de l'esclavage. Très rapidement, il se rend compte que l'esclavage n'est pas viable, qu'il faut l'abolir, comme sont en train de faire les Anglais à la même époque. Et néanmoins,
Qu'est-ce qu'il constate? C'est que si on abolit immédiatement l'esclavage, bah, un, les colons vont se sentir spoliés et risquent de réagir de manière réactionnaire ou d'égarpir. Deux, si c'est émanciper les esclaves pour les faire passer dans le statut du prolétaire de l'Europe actuelle, c'est-à-dire bah, dans le risque du chômage, là, on a parlé tout à l'heure des conditions de vie de l'époque, hein, du 19e siècle, tout le monde connaît Zola, Victor Hugo, on ne va pas les développer longtemps, mais si abolir l'esclavage, c'est faire passer les esclaves dans cette condition-là, ce n'est pas la peine. Et donc, qu'est-ce qu'il va chercher à mettre en place pendant presque une dizaine d'années? C'est un plan d'émancipation de l'esclavage et de colonisation qui doit permettre à l'esclave de devenir un salarié et en même temps au colon de devenir un simple propriétaire qui salarierait ou non ses esclaves. Et ce qui est intéressant, c'est quel plan il propose de mettre en place en Guyane. Il se fait céder, c'est intéressant, en 1837, ses théories finissent par convaincre le plus grand propriétaire de la Guyane qui s'appelle Verena, qui lui offre une terre qui correspond aujourd'hui quasiment à la superficie de la Guyane ou de la Guadeloupe, de la Guadeloupe ou de la Martinique. Et si vous prenez un atlas de la Guyane, les territoires, c'est un peu de l'Oyapock jusqu'à Cayenne quasiment, toute la bande littorale, 100 km quasiment de littoral, 10 km sur l'intérieur des terres, Jules Le Chevalier se retrouve propriétaire de ça à condition de mettre en exploitation. Et pour mettre en exploitation cela, il fait un plan qui finalement reprend un petit peu des théories saint-simoniennes et des théories fourriéristes, puisqu'il propose de faire racheter toutes les propriétés, terres et hommes, puisque les esclaves sont considérés comme des propriétaires, pour une valeur de 50 millions de francs de l'époque, ce qu'il évalue. Il propose de faire racheter ça par une société mixte qui ferait intervenir à la fois des fonds de l'État et des fonds capitalistes. Et donc, ça créerait une grande société de colonisation de la Guyane. Et cette société de colonisation de la Guyane, elle émettrait des titres dont les travailleurs ou les colons pourraient devenir propriétaires, ce qui leur permettrait donc de revendre leur part ou de rester dans l'action. Et les esclaves deviendraient des salariés de cette société, ce qui les aurait donc libérés de l'esclavage. Et en même temps, on fait des salariés qui auraient un travail garanti, puisque ça c'est une société au capital de 50 millions, une société mixte alliant l'État et des grandes banques qui en sont propriétaires. Et il y a évidemment tout un projet social d'instruction, de caisse de retraite, de prévoyance, de maladie, etc. Un vaste projet d'économie mixte avec une dimension presque d'État-providence qui est mis en place. Ce projet, évidemment, il ne voit pas le jour parce que ni les colons ne souhaitent perdre la possibilité d'avoir des esclaves. Enfin, j'exagère un peu. C'est intéressant, c'est de voir, c'est quand il y a eu un vote qui était fait en 1846 en Guyane, l'île se sépare vraiment en deux entre les favorables au projet de Jules Le Chevalier et les défavorables. Et finalement, ce sont les gros propriétaires, ceux qui ont le plus d'esclaves et le plus de terres, qui sont le plus favorables au projet de Jules Le Chevalier, alors que les petits propriétaires, au contraire, ils sont beaucoup plus réticents. Mais quoi qu'il en soit.
Je suis en train de vous couper, je croyais que l'esclavage n'avait pas été rétabli en Guyane, contrairement à Martinique et à Guadeloupe, qui n'avaient pas d'esclaves à ce moment-là.
Si.
Que Napoléon avait rétabli l'esclavage dans Martinique, Guadeloupe, et que la Guyane y avait échappé. Donc, j'ai appris des cours.
Alors, en tout cas, dans les archives du centre d'archives d'outre-mer à Aix-en-Provence, il y a bien des registres d'esclaves. Toute la question du projet d'abolir les esclaves en Guyane. Ce qui pourrait aller dans votre sens, c'est qu'il se propose de commencer par la Guyane, parce que c'est justement la colonie d'outre-mer française où il y a le moins d'esclaves. Le moins d'esclaves, ça faisait l'équivalent de 13 000 esclaves pour 15 000 blancs, quelque chose comme ça. Mais comparé à la Martinique ou à la Guadeloupe, c'était moins. Donc le projet échoue et Jules Le Chevalier se retrouve de nouveau ruiné. Il fait plusieurs séjours en prison pour dette. Ça devient très flou à l'époque ce qui se passe. À un moment donné, en 1846, pour essayer d'échapper à la prison, il achète un hôtel particulier de manière à pouvoir être censitaire, comme vous savez, à l'époque, dans un système d'élection censitaire, pour pouvoir se présenter aux législatives à Bordeaux. Il échoue lamentablement aux élections.
Il fut à un moment donné à Berlin où il fait quelques cours d'économie sociale. C'est intéressant parce que le terme d'économie sociale apparaît pour la première fois sous sa plume. Avant, il parlait d'économie sociétaire, de sciences de l'humanité, enfin, un certain nombre de choses. Et puis, il arrive finalement à se récupérer par le biais de Passy, notamment, à obtenir en 1847 un poste de secrétaire général la société de colonisation des Indes, ce qui lui offre un revenu honorable. Ça, c'est 3 mois avant la révolution de 1848, qui proclame l'indépendance de l'esclavage, mais évidemment va ruiner les colonies à court terme, comme si attendait Jules Le Chevalier. Sous la Seconde République, Jules Le Chevalier va jouer le rôle dont je vous ai parlé au sein de la Banque du Peuple en 1849. Il se rapproche de Proudhon. Avant d'être proche de Proudhon, alors ça c'était donc la note sur la fondation régulière de la première attention de la population culturelle. On va passer au suivant. Sous la Seconde République, il crée un club de l'organisation du travail, qui a pour but évidemment de se mettre en relation avec Louis Blanc et la Commission de Luxembourg. Il écrit dans la République du Saint-Simonien Barrest, et il écrit très rapidement dans différents journaux qui sont peu connus et qui souvent ont eu des publications très éphémères, mais il y a un grand nombre de journaux d'artisans, en fait, d'ouvriers, qui ont pour but d'organiser le travail et qui mettent en place des projets de société. Là, en l'occurrence, c'est le journal de la Société Universelle, avec l'idée de former finalement des formes d'associations et de coopératives pour essayer de mettre en place des accords sur les prix, sur les marchandises, gérer ensemble le travail. Vous savez que à l'époque, il n'y a pas concrètement de contrat de travail collectif depuis la loi de Chapelier. Il n'y a pas d'accord possible entre les patrons, pas d'accord possible entre les ouvriers. Donc il y a cette volonté en 1848, grâce à la loi sur les associations, de pouvoir justement fédérer des groupes pour discuter. Les références à l'utopie reviennent, mais vous voyez Thomas Mann, l'utopie dans... Jules Le Chevalier, d'ailleurs, en 1848, se revendique à nouveau d'avoir été saint-simonien et fourriériste. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette théorie? Cette théorie, c'est l'association. Aujourd'hui, on a le droit à l'association, il faut que je sors là-dedans. Cette théorie, c'est quoi? C'est le socialisme. Aujourd'hui, pour sortir, la République doit être socialiste. Il devient, Jules Le Chevalier, beaucoup, très socialiste. Il fait partie du mouvement républicain démocrate socialiste. Pourquoi je le précise? Parce que je vous l'ai dit, dans les années précédentes, il était favorable à la monarchie de Juillet, et c'était même un fervent défenseur de la monarchie de Juillet. 1849, la Banque du Peuple. La Banque du Peuple échoue à cause de Proudhon qui estime ses idées trahies par les méchants fourriéristes qui sont venus l'infiltrer. C'est essentiellement Jules Le Chevalier, d'ailleurs, qui finit par susciter la crainte de Proudhon, parce que justement c'est Jules Le Chevalier qui a drainé des saint-simoniens et des fourriéristes, donc des natures le projet proudhonien. Et le 13 juin 1849, les socialistes, les démocrates socialistes, appellent à manifester le peuple contre l'invasion de l'Italie par l'armée française. L'armée française intervient pour soutenir pour soutenir les troupes vaticanes contre les républicains romains. Pour les républicains français, c'est donc une trahison. Dans la Constitution, il est noté que l'usage de la force française ne doit pas être fait contre la liberté d'un autre peuple. Jules Le Chevalier, comme d'ailleurs d'autres fourriéristes, descendent manifester. Il s'ensuit une répression très violente, qui met à sac d'ailleurs tous les organes du socialisme, la démocratie pacifique, le bureau de la démocratie pacifique est visité très violemment par les forces de la police, et le bureau du peuple, le journal de Proudhon auquel collaborait Jules Le Chevalier, qui avait pour but d'organiser la Banque du Peuple. Ouais, c'est intéressant d'ailleurs le rapprochement. Le Phalanstère, c'était un journal qui avait pour but d'organiser la colonie. Le Peuple, c'était le journal de Proudhon, évidemment avec beaucoup de théories sociales, mais qui avait pour but d'organiser la Banque du Peuple. Le journal du Peuple, il est évidemment, je sais qu'il y a quelques lettres où on raconte que la police est venue à tout démonter et les scellés sont posés. Pareil sur la Banque du Peuple et tout ça. Et Jules Le Chevalier s'exile en Angleterre. Et il va y passer donc 5 ans, et pendant les 5 années suivantes, les 5 années qui passent au pays de l'exil, et ben, il se lance avec les socialistes chrétiens, vous voyez, c'est intéressant, il y a des saint-simoniens, fourriéristes, fervent défenseur de la monarchie de Juillet, républicain socialiste, et en Angleterre, c'est avec les socialistes chrétiens qu'il met en place une centaine de coopératives ouvrières à travers la Grande-Bretagne. Là, c'est assez impressionnant, il est avec Charles Ludlow, Kingsley, le révérend Maurice, des gens qui sont connus en Angleterre pour le grand rôle qu'ils ont joué dans l'économie sociale. Le père Maurice, Frédéric Denis Maurice, il est à l'origine du Queen's College, un des premiers collèges féminins en Angleterre. Il est à l'origine du Working's Men College, qui existe encore aujourd'hui, vous voyez, qui aujourd'hui joue un rôle de formation continue pour les adultes. Bah, c'était l'idée de faire une école pour les travailleurs, pour les gens qui n'avaient pas pu bénéficier d'études. Donc il y a des institutions concrètement qui dérivent de ces projets-là, qui sont sur les ruines du chartisme. Hein. Finalement, l'Angleterre en 1848 est passée par les mêmes problèmes que la France. Les mouvements chartistes ont abouti à une série de violences et de répression qui fait que l'économie sociale est à rebâtir, à reconstruire. Et Jules Le Chevalier va faire prendre, la mayonnaise au milieu de ces Anglais qui sont conscients qu'il faut faire quelque chose pour le sort du monde ouvrier et qui vont s'intéresser un petit peu à ce qui se passe du côté français. Ils disent quand même, les Français, en 1848, en l'espace de quelques mois, ils ont créé une centaine d'associations, de coopératives, de mutuelles. Et quand Jules Le Chevalier arrive en disant, oui, c'est moi qui ai fait ça. J'ai participé à ça avec Proudhon, avec Lydon, avec Victor Considérant et autres, on sait ce que c'est. Les Anglais le chargent un petit peu encore d'en faire le théoricien de cette théorie et il va mettre en place dans un premier temps une société pour promouvoir les associations ouvrières. Cette société de promotion des associations ouvrières, dans un deuxième temps, elle devient toujours sur la plan de Jules Le Chevalier une société pour les coopératives ouvrières qui développent des magasins de coopératives, essentiellement des coopératives de consommation. Et pour Jules Le Chevalier, ça va pas assez loin. Ça, c'est de la coopération, concrètement, c'est de la petite épicerie coopérative. Alors, pour le quotidien du travailleur anglais, c'est quelque chose d'utile. Mais lui, il va aller plus loin. C'est le modèle coopérativiste. C'est pas uniquement à la petite épicerie et au petit commerce qu'il faut faire. C'est à la production et globalement, c'est à l'échelle globale. Et là, il se lance dans un troisième projet, une société pour la promotion des travailleurs et de la coopération à l'industrie, enfin, littéralement c'est pas tout à fait ça. Là, son projet, c'est de développer à l'échelle nationale de l'Angleterre et même à terme à l'échelle européenne un immense en fait centre d'achat et de commandes de travail et de produits pour pouvoir mettre en place une coopération à l'échelle de l'Angleterre d'abord et de l'Europe. Évidemment, vous dites bien que ça engloutit beaucoup d'argent et que ça ne se met pas en place. D'ailleurs, pour mettre en place cette société, il allait trouver les Saint-Simoniens. Il revient en France consulter les Saint-Simoniens qui refusent de le soutenir dans ce projet. D'abord, à cause de tous ces revirements idéologiques, on a eu un chevalier saint-simonien, fourriériste, monarchiste, proudhonien, chrétien socialiste, et là tu reviens nous voir, donc sais-tu toi-même qui tu es. Et puis deuxièmement, tes projets, on a un peu du mal à les suivre, c'est pas crédible. Sachant que en plus, à cette époque-là, il est condamné à l'exil, puisqu'il a participé à la manifestation de 1949, et que ses retours en France se font de manière plus ou moins clandestine. Là encore, c'est dur de suivre la trace. Il demande sa grâce dès 1853-54 par le biais de Billot, qui est au ministère, puis à Napoléon. Il ne l'obtient qu'en 1858. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur la période 1857-1858, il est quand même considéré comme salarié du service de statistiques du Second Empire, ce qui se laisse supposer qu'il faisait donc des petites activités d'espionnage en Angleterre. Et il était donc chargé à la fin des années 1850 d'espionner les réfugiés socialiste dont ils étaient partis en Angleterre. En réalité, son rôle s'est limité à l'infiltration de la presse anglaise pour faire de la propagande en faveur de Napoléon III. Évidemment, c'était une charge d'une mission impossible, aller essayer de, dans les années 1850, de réussir à interpréter un article en faveur de Napoléon III en Angleterre, malgré les accords commerciaux qu'il y avait, c'était particulièrement difficile. Jules Le Chevalier échoue, ça lui permet néanmoins de revenir en France et d'avoir un petit poste de fonctionnaire. Malheureusement pour lui, ses dettes de l'époque du Journal de Paris puis de la colonie de Guyane, grâce à la Seconde République, ça avait annulé, mais avec la remise en place, on va dire, de l'ordre sous l'Empire, ses créanciers le rappellent. Et donc le pauvre Jules Le Chevalier, il finit sa vie dans une condition assez misérable. Il continue une carrière de publiciste, notamment dans un journal qui s'appelle l'Esprit Public, qui avait même un tirage de plusieurs dizaines de milliers au début des années 1860 à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que ces tout derniers articles, dans lesquels il continue à militer en faveur des coopératives et des mutuelles qui se mettent en place sous le Second Empire, il écrit, un de ses tout derniers articles, c'est que, l'économie de marché, le libéralisme est nécessaire, et ce que nous avons de mieux à faire, c'est d'essayer de l'harmoniser, d'essayer de pouvoir le contrôler. Et il va même jusque dans un de ses derniers articles, faire une espèce de revue très didactique. À cette époque, elle s'intéresse beaucoup, donc notamment au crédit immobilier. C'est pas un hasard de toute façon, puisque beaucoup de Saint-Simoniens avaient des banques à l'époque. Il s'intéresse beaucoup aux banques et il conclut sa vie en disant que finalement, la bourse, l'économie de marché ont un rôle à jouer, mais qu'il faut néanmoins trouver les moyens de les contrôler. Il s'éteint donc en 1862, à l'âge de 54 ans. Il vivait à l'époque dans un petit deux pièces vers la place de Clichy. Et c'est les frères Ferrer qui ont payé ses frais d'obsèques derrière le cortège de Jules Le Chevalier pour je ne sais pas si c'est la dernière fois, mais en tout cas, des fourriéristes comme Charles Pellerin, mais des Saint-Simoniens comme le père Enfantin ou les frères Ferrer se sont retrouvés pour lui donner un dernier hommage. Ah, bon. Ah, bon.